Bonjour tout le monde. Waouh, ça me fait super plaisir d'être là et ça m'émeut. Je vais souvent avoir la voix qui tremble d'émotion parce que c'est un sujet qui me touche beaucoup et qui vous touchera peut-être. Donc déjà, merci d'être là. Je me sens super honorée. Merci d'être là. Merci à l'organisation parce qu'on n'a pas de télécommande. Donc il y aura quelqu'un qui va m'aider à passer les slides. Ça, c'est chouette. J'espère que tout le monde va bien. C'est vraiment super de se retrouver ici en Belgique. Moi, c'est la toute première fois que je viens et je suis honorée. Vraiment, je me sens honorée. Alors, merci de m'accueillir. Et l'idée aujourd'hui, ça va être de vous parler de différentes thématiques qui sont en lien avec mon association Coexister, évidemment. Mais essentiellement, la thématique qui nous intéresse le plus en général, c'est l'accompagnement des éleveurs en reconversion. Donc, je vais beaucoup m'attarder là-dessus. Et en principe, la conférence dure à peu près 30 minutes et on a une quinzaine de minutes de questions-réponses après, mais on peut continuer. Moi, je reste jusqu'à la fin de la journée. Donc, je crois que tout à l'heure, justement, il y a une séance dédicace, si nécessaire, pour les personnes intéressées en bas. Table ronde avec des chaises rouges, on m'a dit. Voilà. Donc, on peut se retrouver là-bas, si jamais. Moi, ça me va que la conférence soit interactive. Donc, si vous avez tout d'un coup une question urgente, vous n'hésitez pas, d'accord, à m'interpeller. Ou si je dis un truc qui vous choque ou qui vous convient pas, vous avez aussi le droit de dire, ok. J'aime bien le préciser à chaque fois que je prends la parole que j'ai aucune prétention de détenir une vérité unique quelconque, d'accord. Par contre, je vous fais part des expériences que je fais autant avec les animaux qu'avec les éleveurs en reconversion, mais je ne parle pas, voilà, en essayant d'inculquer une vérité unique. C'est une manière de faire, et il y en a plein d'autres. Ça vous va comme cadre? Cool. Merci beaucoup. Bien. Alors c'est parti. Le fil rouge de la présentation, il est très basique. Hein. L'idée, c'est que je vous présente dans les grandes lignes qu'est-ce que l'association Coexister, comment on a créé cette association, pour quelles raisons. Et ensuite, vous parlez des missions principales de l'association, dont la deuxième, qui est l'accompagnement des éleveurs et éleveuses dans leur reconversion. Ça, c'est vraiment quelque chose qui s'est mis en place en Suisse il y a à peu près 6 ans et qui a pris beaucoup d'ampleur très, très vite. Et même, voilà, avec Sarah de Hofnar qui s'occupe de la partie suisse alémanique, parce que vous savez, en Suisse, il y a 3 régions linguistiques. Eh ben, on se demande qu'est-ce qui explique qu'en Suisse, ce mouvement ait pris autant d'ampleur et aussi vite. Donc, on va essayer d'y répondre, mais voilà, on le vit sur le terrain. Et évidemment, quel est le rôle des animaux directement dans la reconversion des éleveurs et des éleveuses? Ça, je me réjouis de vous partager quelques histoires qui vont me faire pleurer et peut-être qui vous feront pleurer aussi. Les freins et les fausses croyances, ça c'est vraiment un gros sujet quand les éleveurs entament leur processus de reconversion, évidemment, parce que on va avoir les croyances limitantes autour du système économique, autour du replacement des animaux, autour du jugement des gens, autour des éleveurs, et donc on va pouvoir déconstruire un petit peu tout ça. Je vais vous parler en quelques mots des projets à venir avec l'association, puisque cette année, c'est une année à grand projet. Donc, c'est cool de pouvoir en parler un peu en dehors de la Suisse aussi. Et après, information pratique et questions. Voilà. Alors, c'est parti. Donc, Coexister, c'est une association qu'on a créée en 2018 avec pour but premier d'agir en complémentarité avec les associations qui existaient déjà sur sol suisse. J'ai toujours prôné l'idée que toutes les méthodes militantes sont complémentaires les unes aux autres parce qu'il y a autant de manières de militer que d'individus. Voilà, ça, c'est ma manière de voir les choses. Et donc, même si j'étais très active à l'époque dans la désobéissance civile, eh ben, j'ai toujours mis en avant le fait que c'était fondamental de pouvoir compter sur différentes manières de militer un peu partout dans la société, parce que les animaux, de toute manière, sont présents, qu'on le veuille ou non, à toutes les strates de la société. Donc, on doit pouvoir agir à tous les niveaux. Et donc, Coexister, le but, c'était de se dire, ben voilà, en 2018, qu'est-ce qui existe déjà en Suisse et qu'est-ce qui manque ? Et évidemment, bah dans le milieu antispéciste, vous le savez, il y a des personnes qui se sentent très proches des animaux, qui ont un lien très fort, mais il y a aussi des personnes qui ne se sentent pas forcément proches des animaux, mais qui les défendent quand même. Et puis, bah moi, je faisais partie des personnes qui ont un lien très fort avec ces animaux-là. J'avais envie d'avoir un impact direct sur des vies, aujourd'hui, ici et maintenant. Et l'idée, c'était de créer un sanctuaire. Voilà. Donc, l'association Coexister avait pour mission de montrer comment concrètement on fait pour cohabiter avec les animaux. Parce qu'il y a la théorie, qui est très, très belle et très louable, de considérer les animaux à leur juste valeur, c'est fondamental. Mais après, il y a comment on fait concrètement sur un terrain. Donc, le but, c'était de créer un sanctuaire qu'on a créé en 2019. Et dans cette optique de complémentarité, c'était de se dire, OK, on agit beaucoup sur le changement de conscience des consommatrices et consommateurs. On essaie d'agir sur les animaux directement avec des refuges et des sanctuaires. Il y en a qui agissent sur le plan politique, évidemment. Et ce qui manquait, c'était ce soutien, cette main tendue vers les éleveurs qui ne trouvaient pas de solution pour se reconvertir. Et il faut savoir que je ne sais pas comment c'est en Belgique, je ne sais pas comment c'est en France, mais en Suisse, le soutien à la reconversion était inexistant, en fait. Hein, à part Hofnar, qui agissait justement déjà en Suisse alémanique, en Suisse romande, comme on appelle la partie francophone, il n'y avait rien qui se faisait. Donc potentiellement, des éleveurs-éleveuses se reconvertissaient seuls dans leur coin, mais sans un soutien réel, et potentiellement aussi, ça fait que le changement peut faire très très peur quand on n'a personne pour, voilà, pour parler de ce qu'on vit et nous aider à trouver des solutions. Donc ça a été ça, vraiment la mission de coexister, et en dehors de ça, évidemment, il y a tout ce qui est pédagogique, les visites institutionnelles, les visites publiques au sanctuaire, avec vraiment l'accent sur comment on respecte le consentement des animaux quand on vient les visiter, pour ne pas justement être assimilé à un zoo. Et comment on fait passer le message de la coexistence de manière tangible, en fait. Et ce que je mesure, en fait, maintenant, c'est que les animaux dans les sanctuaires, non seulement on peut leur offrir la vie la plus belle et la meilleure possible, dans la mesure du possible, mais en parallèle, ces animaux deviennent leur propre porte-parole dans la lutte, en fait. Et grâce à eux, grâce aux rencontres que les gens font avec les animaux, eh bien, il y a des déclics qui se font qu'on pourrait pas du tout mesurer comme ça dans un dialogue one-one humain-humain. Et ça, c'est vraiment la force de ces lieux-là, parce qu'on a l'impression qu'on peut sauver un certain nombre de vies, pas plus. En effet, dans les sanctuaires et les refuges, on est limité en termes de place, mais ce qu'on ne mesure pas, c'est combien d'humains vont être touchés par la rencontre avec un veau, un cochon, une vache, etc. Et ça, c'est juste gigantesque, hein, ce qui se passe. Et pour le fonctionnement, donc, le sanctuaire, il est basé à une cinquantaine de minutes de Lausanne pour les personnes qui connaissent la Suisse. On est en montagne. Et donc, c'est un sanctuaire qui fonctionne à l'année. Donc, moi, je suis seule là-bas à l'année. Et c'est que depuis l'hiver passé que j'ai mis en place un système de bénévolat. Donc, il y a des gens fréquemment qui viennent 2 heures, 3 heures par jour. Ou là, quand je suis là, bah, il reste 5 jours. Mais l'idée, c'est qu'on fonctionne quand même en relative autonomie, pas alimentaire. Ça, on est de loin, enfin, on est vraiment loin du compte. Mais pour le fonctionnement, c'est ça. Voilà. Et on fonctionne uniquement sur la base de dons, évidemment aussi. Voilà. On peut passer à la suivante. Donc dans les missions, le sanctuaire, c'est vraiment la mission première, c'est de faire, de rendre possible cette utopie qui est l'égalité interespèces, de la rendre réaliste. C'est-à-dire que sur le terrain, eh ben, on va considérer les espèces à même niveau d'égalité, ça fait pas l'ombre d'un doute. Moi, je me considère comme une colocataire à part entière aussi, avec un rôle spécifique, certes, mais je me considère comme une colocataire du lieu, avec ma personnalité, et comme c'est le cas pour chacun des individus sur place. Et à côté de ça, donc l'accompagnement des éleveurs-éleveuses, comme je le disais, la formation à la coexistence, ça c'est venu depuis l'année passée, parce que je me suis rendu compte que de très nombreuses personnes cherchaient un jour à créer un sanctuaire, un refuge, et me posaient plein de questions par mail ou par téléphone. Et je me suis dit, ben, un jour peut-être que ça vaudrait la peine de créer des ateliers de formation. Là, on en a fait 2 à la petite ferme de Belleville pendant 2 jours en Belgique. Et l'idée, c'est de proposer des immersions sur 1 journée, 2 journées, plusieurs mois, avec des ateliers thématiques, en fait, pour les personnes qui ont envie d'apprendre concrètement comment faire. Parce que c'est bien joli de savoir accueillir un cochon, une vache ou un mouton, mais il y a les soins courants, les soins d'urgence, comment on fait, quelle injection on fait, à quel endroit on le fait, comment on coupe les ongles des bovins ou des moutons. Sachant que la plupart des vétérinaires, et ça j'ai cru comprendre qu'en Belgique et en France c'est la même chose, les animaux de rente ne sont pas soignés en principe, donc on fait vraiment la base, hein, et puis pour le reste on envoie la boucherie, ça c'est la solution. Donc il a fallu apprendre en fait à soigner ces animaux parce qu'il n'y avait pas forcément de ressources externes à part les autres sanctuaires qui accueillaient déjà ces animaux. Et je me suis dit, bon, bah, pour les personnes qui veulent se lancer, bah, maintenant je crois que c'est le moment de transmettre les connaissances que j'ai pu acquérir grâce aux animaux directement et puis permettre aux gens ensuite de prendre le relais plus loin, quoi. Donc la formation à la coexistence, c'est ça. 1000 types d'événements différents, que ce soit des journées bénévolat, des événements thématiques avec des conférences, des visites, etc. Et tout ça dans une cohérence écologique, parce que ça me tient à cœur tout particulièrement, donc j'essaye au mieux de faire en sorte que tout soit bio, local, etc., dans la mesure du possible, évidemment. Donc voilà, ça c'est dans les grandes lignes. Et juste pour illustrer tout ça, hein, donc le sanctuaire fonctionne sur 5 hectares de terrain, dont 2 en forêt sauvage totale. Donc on laisse ça vraiment aux animaux de la forêt, on n'y touche pas, il n'y a même pas de chemin pour y accéder. Et sur le terrain, tous les animaux cohabitent, les espèces ensemble, à certains moments de l'année, je le précise, parce que typiquement en hiver, ils sont dans des parcs plus petits pour que l'herbe puisse repousser correctement au printemps, donc ils sont séparés par espèces, mais en été, on voit les moutons, les vaches, les chèvres, tout le monde ensemble. Voilà. Le vif du sujet. En fait, je me suis rendu compte, comme je le disais tout à l'heure, que cette main tendue aux éleveurs, elle devenait urgente et nécessaire. Et surtout que, de mon point de vue, encore une fois, cette solution permet d'agir directement à la source. Parce qu'on peut évidemment changer les modes de consommation alimentaire, évidemment, on peut agir sur le plan politique. Et à un moment donné, si on n'accompagne pas les personnes qui directement sont concernées par l'exploitation animale, eh ben, il manque un maillon de la chaîne. Donc ça, ça a été vraiment l'idée de proposer des solutions concrètes. Mais ce qu'il faut savoir quand même, parce que les éleveurs en Suisse, en tout cas, m'avaient étiqueté depuis plusieurs années comme la militante antispéciste confrontante qui fait de la désobéissance civile. Donc, il faut surtout pas aller parler avec Virginia Marcus parce que c'est pas elle qui va nous comprendre. Donc, même si au départ j'avais à cœur de les soutenir, ils venaient pas me voir. C'est logique, c'est légitime en fait. Et il a fallu que je m'installe au sanctuaire et que je devienne une paysanne comme les autres, parce que c'est ça. Là, j'ai fait un effort de présentation, mais d'habitude, je ressemble pas du tout à ça, si jamais. Et le fait que je devienne une paysanne comme les autres et que j'apprenne à parler leur langue, en fait, parce que concrètement, quand on parle des maladies des animaux, du fourrage, etc., on apprend à parler la même langue. On n'a pas la même finalité, évidemment, avec les animaux dans les sanctuaires, mais au final, je me retrouve à vivre un quotidien quasiment comme les éleveurs. Et ce qui est intéressant, c'est que bah, les deux premières années du sanctuaire, aucun éleveur ne s'arrêtait jamais pour discuter. Des fois, on se croisait sur le chemin, on échangeait deux mots. Mais depuis l'année passée, ouais, même depuis bientôt deux ans, il y a quelque chose qui s'est créé. Pourquoi ? Parce qu'un éleveur a osé passer le pas de la porte du sanctuaire. Il s'est dit, bon, bah, je vais vous en parler après, plus en détail. Mais lui, il s'est dit, OK, je vais essayer de faire tomber l'étiquette. Je vais aller voir Virginia comme être humain et pas comme antispéciste. Et en fait, cette démarche-là, ça a été celle qui m'a encouragée à en faire exactement de même, c'est-à-dire d'aller à la rencontre des éleveurs. C'est plutôt eux qui viennent, mais moi, je ne vais pas tellement à leur rencontre, sauf s'ils m'appellent, mais d'aller les voir d'abord comme êtres humains avant de les voir comme des éleveurs. Parce qu'on est tous et toutes des êtres humains avant tout, et les étiquettes nous forcent parfois soit à nous rassembler, soit à nous diviser. Et j'avais envie de dépasser ce clivage pour qu'on puisse enfin dialoguer ensemble et trouver des solutions ensemble. Parce que je me suis rendu compte, bah voilà, à l'époque, j'étais vraiment dans une démarche de dénonciation. Hein. J'allais dans les élevages, filmer, je faisais des caméras cachées, ou j'allais bloquer des abattoirs, sauver des animaux, etc. Et en écrivant des livres, je me disais, c'est bien. J'avais envie de toucher tous les publics, mais en fait, bah évidemment, c'était très conséquent. Mais les éleveurs ne pouvaient pas se sentir concernés humainement par moi et ce que je prenais, parce que j'allais vraiment à l'encontre de ce qu'eux voulaient à ce moment-là. Donc on était dans une démarche il y a quelques années qui était très très confrontante en Suisse, et ça a braqué pas mal de monde, ce qui est normal. Mais comme dans toute lutte sociopolitique, je crois, on doit passer par là. On doit passer par des phases de crise, de confrontation, de dénonciation, pour ensuite, à un moment donné, reconstruire ensemble. Et là, en Suisse, je crois pouvoir le dire qu'on est vraiment dans cette démarche de reconstruction, parce que le monde politique s'inquiète de plus en plus de la situation de l'élevage, des éleveurs, des animaux, de l'écologie, voilà. Et de plus en plus d'éleveurs, justement, font ce pas-là. Et donc, avec cette solution qu'on propose, à notre humble mesure, hein, évidemment, on va mesurer des résultats concrets, en fait, sur les animaux, parce qu'un éleveur qui arrête, c'est combien d'animaux qui ne seront pas reproduits, en fait, simplement sur toute la carrière. Ça, c'est énorme, je veux dire, à chiffrer, selon la taille de l'élevage. Ça a un impact direct sur les animaux, les derniers animaux qui sont dans cet élevage et qu'on va pouvoir replacer. Pas tous, on n'arrive pas toujours, ça c'est sûr, mais une partie. Et pour les humains directement, parce que les éleveurs qui font cette démarche-là, donc la plupart souhaitent rester anonymes, il faut le dire, parce que c'est difficile d'affronter le regard des gens, mais pour les quelques-uns qui sont prêts à en parler, eh ben, eux vont avoir un impact beaucoup plus fort que n'importe quel militant, militante antispéciste qui s'exprime publiquement. Ça, c'est clair. Et on va le voir avec Stéphane tout à l'heure, qui est devenu vraiment le porte-parole de ce mouvement en Suisse. Et donc, pour un tout petit pays qui est le nôtre, on a plus de 130 éleveurs-éleveuses qui se sont reconvertis en 6 ans. Et ça, c'est énorme. C'est vraiment énorme. J'arriverai pas à faire le ratio par rapport à la France ou à la Belgique, mais c'est vraiment énorme. Et on se dit, bah, c'est incroyable. Et pour ça, pour que ça se fasse, il a fallu que nous, on fasse un effort d'ouverture et de dialogue, ça c'est certain, qu'on aille les rencontrer en tant qu'humains et qu'on les accueille, évidemment, en tant qu'humains, en faisant tomber toutes les barrières. Eux, bah, ceux qui ont été prêts à le faire, ils le font aussi. Et aujourd'hui, on en est au stade où, par exemple, les deux premières années du fonctionnement du sanctuaire, c'était uniquement des gens qui négociaient avec des éleveurs pour pouvoir sauver un agneau, un mouton, un cochon, etc., et qui faisaient le lien avec moi, parce que les éleveurs refusaient de parler avec moi, hein, les premières années. Et souvent même, il y a des personnes qui disaient « Ah, tu veux replacer cet agneau chez Coexister ?» Non, non, c'est pas possible, parce qu'on travaille pas avec Virginia. Donc on en était à ce stade il y a deux ans, enfin, les deux premières années. Et là, depuis deux ans, systématiquement des éleveurs qui me contactent directement pour replacer leurs animaux. C'est quasi plus jamais des intermédiaires. Et je me dis, waouh, c'est fou, quoi. En quelques années, comment les choses ont changé? J'ai même pas vraiment l'impression de comprendre pourquoi. Mais je crois qu'il y a vraiment cette démarche d'ouverture et de dialogue, en tout cas, qui a beaucoup aidé. Et là, je me rends compte que dans ma journée, essentiellement, je réponds à des messages ou des téléphones, soit des personnes qui tiennent des sanctuaires et des refuges, qui ont des questions à poser, ou alors des éleveurs qui se posent des questions ou qui ont fait le pas et avec qui on monte des projets de fou, quoi. Donc, le quotidien a beaucoup changé. Voilà, on peut passer à la prochaine. L'accompagnement des éleveurs en reconversion compte sur le phénomène d'exemplarité, ça c'est clair. Et celui qui a vraiment permis ce mouvement en Suisse allemande, c'est Tony Katriner, qu'on voit là, qui est un homme incroyable. Donc lui et son épouse, Yvonne, qui ont aussi 4 enfants, ont fait tout un cheminement invraisemblable, mais tellement touchant, où ils étaient éleveurs laitiers, tous les deux. Au moment où ils ont eu des enfants, ils se sont rendus compte par eux-mêmes de ce qu'ils étaient en train de faire vivre aux vaches, en fait, de séparer les petits des mères, etc. Donc là, ils ont eu un premier déclic, un premier cas de conscience. Ils se sont dit, bon, OK, on fait pas ça, on va faire les vaches à viande. Ça, c'est souvent le cas. Hein. Les éleveurs laitiers transitent vers les vaches à viande parce qu'ils ont l'impression d'être un peu plus éthiques. Et puis, ils se sont dit, bon, bah voilà, on fait les vaches à viande, quoi. Et puis, c'est bon, on a meilleure conscience. Puis, en fait, ça a duré quelques mois. Et à chaque fois qu'ils devaient envoyer un animal à la boucherie, c'était devenu cauchemardesque. Donc, ils en faisaient vraiment des cauchemars. Ils ne dormaient plus la nuit pendant des jours. Puis, à un moment donné, Tony, alors lui, quand il en parle, évidemment, tout le monde pleure. Hein. Il parle en suisse allemand, mais quand même, on sent l'émotion. Il dit, du moment où on ouvre son cœur, il n'y a que des solutions. Et si on ne trouve pas de solution, c'est qu'il faut encore agrandir l'ouverture un petit peu. Et lui, il s'est dit, bah voilà, nous, on préfère galérer peut-être au début financièrement avec les animaux, ouais, mais on peut plus agir à contre-cœur, quoi. Donc lui, il a commencé à parler publiquement, hein, il y a à peu près, ouais, 6-7 ans, en Suisse allemande, et de son discours, il a reçu à la fois des menaces, clairement, hein, des paysans qui étaient pas contents, mais beaucoup d'éleveurs éleveuses, il m'a dit, qui étaient partis à la retraite, par exemple, et qui avaient dit, bah voilà, on aurait dû le faire plus tôt. Maintenant, quand on entend ton discours, on se rend compte que c'est possible, quoi. Et donc, ça a fait émerger un vrai mouvement. Et puis, bah, depuis, comme je vous le dis, il y a une centaine en Suisse allemande qui s'est reconvertie. Voilà, ça, c'est Tony. Et puis, on va passer à Stéphane. Stéphane, qui est devenu mon meilleur pote, alors qu'il n'y a pas si longtemps, il ne pouvait pas me blairer, quoi, évidemment. Et lui, c'est un petit peu le même cheminement que Tony, sauf qu'il n'avait pas du tout le même genre d'élevage. Lui, c'était vraiment le petit éleveur qui voulait viser l'autosuffisance. Donc, il avait quelques vaches, quelques chèvres, quelques cochons, quelques poules, et il nourrissait son village. Donc, lui, il avait vraiment une très bonne conscience avec ça. Il disait, mais c'est super, on fait ça à petite échelle, c'est génial. Et en fait, il y a un jour, c'est une vidéo, donc on va le faire parler tout à l'heure, mais il y a un jour où ça n'a plus été possible. Et c'est là où je vais le laisser s'exprimer parce qu'il n'a pas pu venir avec moi. Donc on peut mettre play sur la vidéo et j'espère qu'on l'entendra bien.
Alors on est en Belgique aujourd'hui, Stéphane.
On est en Belgique. Alors amis belges, bonjour. Je vous reçois dans mon petit laboratoire, voilà, où il y a 2 ans en arrière, on était encore bien ancrés. Donc, je ne sais pas si vous connaissez l'UDC, mais chez nous, c'est la droite, où on était paysan UDC avec des valeurs où il n'y avait que la droite qui devait fonctionner et on devait absolument manger de la viande, manger du fromage, enfin, un petit peu le côté éthique de la Suisse où c'est les vaches, le fromage, le chocolat, enfin, des choses comme ça. Puis un jour, on s'est dit, c'est pas possible, on ne peut pas continuer comme ça, étant donné qu'on crée des liens avec les animaux. Puis quand tu crées des liens avec les animaux, ça va un petit moment, puis plus tu avances, plus ils te font comprendre que bah, tu dois les respecter, tu dois les aimer et tout, mais au final, tu les tues et tu les bouffes. Et puis là, ça passe pas. Donc du coup, il a fallu faire un sacré travail. Alors, Ginia, explique-moi.
Oui, non, mais parce que moi, ça me met les larmes aux yeux quand je t'entends. Et
puis, ah oui,
je me dis, il faut que les gens puissent sentir ça.
Toi. C'est normal. Donc du coup, il a fallu faire vraiment un gros retour en arrière et puis de passer vers le côté éthique et le côté du cœur, de savoir qu'est-ce que je veux et qu'est-ce que je veux pour mon avenir. Et puis mon avenir, c'est quand ma vache elle est morte au pré, qu'on a eu l'occasion de vraiment beaucoup discuter entre elle et moi, et puis que le message était clair, qu'il fallait penser à soi avant de penser aux autres. Donc là-dessus, on a décidé de rencontrer Virginia, que vous aurez la chance de la voir en direct live.
Coucou.
Alors que moi, je suis juste en vidéo, mais de toute façon, je la suis. Et avec Virginia, on a pu faire tout un cheminement, on a laissé tomber ces barrières, on a laissé tomber toute cette espèce de système qui nous fait, en gros, croire que si on sort du système, on est foutu. Donc, de loin pas. Et depuis qu'on a réussi à s'aligner, depuis qu'on a pu placer nos vaches, on a ouvert cette boulangerie végétale où j'ai pu retrouver toute ma passion, tout ce que j'aime faire, des petits délices végétaux. Alors que c'est vrai qu'au départ, quand tu manges une assiette sans viande, tu te dis « putain, tu vas t'emmerder dans la journée hein. ». Eh ben non, tu arrives à faire des petits délices, avec des petits sandwichs avec du tartex, tu fais des tresses végétales, tu fais du pain, tu fais plein de choses, tu t'éclates et tu recrées. Donc si c'est possible en Suisse, je suis sûr que c'est possible chez vous aussi, parce que il me semble que vous aussi, vous ressemblez un petit peu à la Suisse, vous avez quand même deux états, vous devez aussi vous comprendre entre vous et vous devez arriver à faire en sorte que ça fonctionne. Et si vous n'arrivez pas, Virginia et moi, on vient, on se déplace, on vous explique comment. Alors, je vous souhaite tout de bon, vous passez une bonne journée, ce sera une journée, une soirée, ce sera
journée, quoi soirée, toute la journée.
Exactement. Vous profitez et vous verrez, Virginia, c'est une belle personne et elle a beaucoup de choses à vous apprendre. Elle m'en a appris, elle est intarissable.
Non.
Mais oui, t'es intéressant. Non, mais elle Merci. Se remet en question. Il faut se remettre en question et beaucoup de tolérance. Parce que ça, c'est la base, la tolérance. En avant.
Merci Stéphane.
Bon, il aurait dû faire humoriste aussi. Il est vraiment fait pour ça. Alors là, voilà, typiquement, c'est vraiment quelqu'un qui a fait un chemin sur lui, en fait. Et c'est ça que j'ai envie de vous dire avec... je sais pas si on m'entend encore, ouais. Voilà, ça va être l'histoire de Réglisse. En fait, quand il dit, à un moment donné, il a accompagné sa vache... au pré, qui est morte dans ses bras, c'est cette fameuse réglisse. Et il dit à un moment donné, c'est là où je me suis rendu compte qu'il fallait penser à soi avant de penser aux autres. Et quand il dit ça, je précise juste, c'est arrêter d'être freiné par le regard des gens qui lui disaient « mais non, mais tu ne peux pas arrêter, tu fais de la super bonne viande pour le village, comment on va faire ?» voilà. Et en fait, à un moment donné, il s'est dit « mais je ne peux plus, je ne peux juste pas me regarder en face. » quoi. Et en fait, l'histoire de réglisse, c'est là où on en vient pour moi vraiment au cœur de la reconversion, c'est que eh ben, les éleveurs, à chaque fois, c'est le même processus, j'ai l'impression, ceux qui font ce pas-là. Ils ont élevé des animaux toute leur vie, ils ont encore des centaines d'animaux sous les yeux, et tout d'un coup, on ne sait pas pourquoi, il y a un individu, un seul. Ils vont le regarder dans les yeux, et ça va tout changer. Et ça, c'est incroyable, parce que on pourrait argumenter comme on veut, hein, en tant que militant, dire, vous savez, économiquement, si, écologiquement, ça, éthiquement, ça, c'est pas ça qui va faire la différence. C'est vraiment le regard d'un animal, cette connexion spécifique qui se passe, et ça change toute la vie, quoi. Et ça vaut pour les éleveurs comme pour n'importe qui, mais chez eux, c'est d'autant plus marquant. Et donc, Réglisse, bah voilà, ça c'était la vache, c'était sa meilleure amie, quoi, à Stéphane. Il m'a dit, elle a vécu 17 ans, alors qu'il aurait dû la faire abattre bien avant, parce qu'elle avait arrêté de porter déjà depuis bien longtemps. Il disait, non, Réglisse, c'était ma meilleure amie, hors de question. Il faisait tuer ses progénitures et puis d'autres animaux, mais Réglisse, personne ne devait y toucher, quoi. Et en fait, c'est ce qui s'est passé. On n'a pas voulu faire une vidéo trop longue avec lui, parce qu'il peut en parler pendant 4 heures, mais ce qui s'est passé, c'est que Réglisse était vieillissante. Elle était au parc, puis un jour où elle a vraiment faibli, elle est tombée au sol, puis lui, il n'était pas très loin, donc il a pu aller vers elle. Puis il l'a prise dans les bras, quoi. Et en fait, il s'est juste vraiment connecté sincèrement avec son cœur, à ce moment-là, à cette vache. Et puis évidemment, bah, l'émotion est telle qu'il peut se retenir de rien. Et c'est comme si à ce moment-là, son cœur lui souffle une petite voix qui dit « t'as le choix maintenant ». Soit tu nous aides à partir dans ces conditions-là, c'est-à-dire librement au pré et puis toi connecté à nous avec ton cœur, ou tu continues avec ta fierté et puis tu continues à élever les autres et tuer les autres, quoi. Il a vraiment entendu ça. Et c'est là où il s'est dit, bon bah, ok, je peux pas trahir Réglisse et je peux pas trahir mon cœur. Donc il nous a contactés juste après, quoi, quelques semaines après. Donc en quoi Réglisse, voilà, elle a vraiment marqué la transition et c'est devenu l'emblème de sa boulangerie végétale aussi. Ses flyers sont faits avec elle, enfin voilà, avec son image. Donc c'est une seule vache sur son parcours, mais qui a tout changé, quoi. Et des animaux comme ça, il y en a d'autres. Il y a Barbouille qui est au sanctuaire. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que Réglisse, la vache de Stéphane, avait une fille, Maya, qui est au sanctuaire coexistée maintenant. Et la fille de Maya aussi, Maya et Hippie, sont chez moi. Donc c'était les deux dernières vaches de Stéphane. Et donc elles sont, c'est juste les reines hein, du sanctuaire évidemment, elles sont incroyables. Et elles ont une copine Barbouille depuis l'année passée. Et Barbouille pareil quoi, ça a vraiment été un déclic chez... Alors il y avait trois éleveurs autour d'elle, c'est une histoire familiale un peu comme ça. Et c'était la vache préférée d'un des éleveurs. Et en fait de fil en aiguille, l'univers, j'ai envie de dire ça comme ça parce que c'est une telle constellation que je pourrais pas vraiment tout décrire, ça prendrait des heures. Mais l'univers a fait que cet éleveur s'est retrouvé chez moi au sanctuaire pour une toute autre raison à la base. Et au moment où il est arrivé chez moi pour cette autre raison, son frère l'appelle en disant « Écoute, Barbouille, elle porte toujours pas, ça fait 4 ans, là, on lui a laissé un bon sursis, il va falloir l'envoyer à la boucherie, quoi. » Et donc, il s'est retrouvé à prendre ce coup de fil quand il était chez moi pour une autre raison, donc de fil en aiguille, Barbouille est arrivé chez moi et ça a été le déclic pour ces trois aussi. Et voilà, donc c'est à chaque fois un individu, on ne sait pas pourquoi, mais c'est cet individu qui change la donne. Et on parle toujours des éleveurs-éleveuses en reconversion, mais il y a les autres corps de métier dont on ne parle pas assez souvent, c'est vrai. Là, par exemple, c'est l'histoire de Gila, qui est aussi au sanctuaire chez moi maintenant. C'est une truie qui était mère reproductrice dans un laboratoire d'expérience, d'expérimentation animale. Et là, c'est une laborantine qui travaille sur place, qui s'attache évidemment aux truies qu'elle a sous les yeux tout le temps et au porcelet, et qui à un moment donné prend le téléphone, puis elle se dit « bon, je vais essayer de négocier avec mon directeur pour qu'on puisse au moins, au lieu d'envoyer ces animaux à l'abattoir quand les expériences sont terminées, qu'elle puisse avoir une vie digne après quoi. » Elle a commencé comme ça, et depuis novembre l'année passée, on a pu aider 7 truies à sortir des laboratoires, et à chaque fois quasiment avec un des porcelets. Et l'idée, c'est que ce laboratoire, petit à petit, est en train de diminuer la reproduction des porcelets sur place. C'est pas encore totalement abouti, mais voilà, comme dans toutes les étapes de transition, il faut du temps quand même, hein, parce que des fois, ils doivent honorer certains contrats, etc. Donc c'est, évidemment, c'est pas tout simple, on peut pas d'un claquement de doigts tout changer. Mais bah là, je crois que dans le laboratoire, il reste que 2 mères qu'on va aussi sortir à un moment donné. Donc petit à petit, les expériences vont s'arrêter. Et ça, c'est juste de nouveau parce qu'une personne à l'interne a essayé de faire bouger les lignes, quoi. Donc c'est en cours, par exemple. Et puis Balia, ça c'est une chèvre aussi qui est au sanctuaire. Et là, c'est une histoire encore très très différente parce que quand même, je vous le disais, il y a beaucoup de pudeur hein, chez les éleveurs et les éleveuses. Et là, un jour, j'étais au sanctuaire en plein après-midi d'été l'année passée et tout d'un coup, il y a une éleveuse qui débarque en larmes chez moi. Elle me dit « Je suis désolée, je débarque comme ça, mais j'ai pas de téléphone par Internet. » Voilà, c'était vraiment la petite éleveuse dans sa montagne qui me disait « Mais je vous contacte comme ça parce qu'il me reste une seule chèvre. » C'est la dernière, c'est elle, c'est Balia. Les autres, bah, on a dû les envoyer à la boucherie. Une, elle est morte la semaine passée. Et puis, c'est la dernière et je veux arrêter, quoi. Et donc, elle était en larmes. Elle n'arrivait même pas vraiment à m'expliquer tout le processus. Mais elle me disait, j'aimerais juste que cette chèvre vienne chez vous et après, j'arrête. Et puis après, elle a vraiment disparu. J'ai essayé même de la recontacter, etc. Mais je pense que par pudeur, elle n'avait pas envie forcément de s'étaler trop. Mais elle m'a dit, à partir de là, elle reprendra plus d'animaux. Et puis, elle était juste contente que sa dernière chèvre arrive chez nous. Voilà. Et dans ces fameux freins et fausses croyances, évidemment, il y en a beaucoup. Et je pense que là, que ce soit la Belgique, la France ou la Suisse, c'est exactement le même phénomène. L'élevage est tellement bien ancré dans les traditions que c'est difficile. Hein. C'est vraiment, vraiment difficile pour quelqu'un de s'affirmer dans son cercle social et professionnel en disant « bon, bah j'arrête ». Quoi. Donc la peur du jugement, la peur du rejet social, la peur du rejet familial est très, très, très ancrée. Et pour ça, comme je le dis souvent, en fait, l'accompagnement à la reconversion des éleveurs, c'est l'accompagnement à la reconversion tout court, dans le sens où c'est tout un schéma de pensée et toute une manière de concevoir le monde qui change. En fait, les gens, quand ils font cette transition-là, eh ben, ils changent complètement à l'intérieur d'eux-mêmes. Et comme le disait Stéphane dans la vidéo tout à l'heure, lui, il était vraiment le paysan de droite, très fermé, etc. Puis aujourd'hui, c'est bisounours presque. Hein. Non, mais voilà, pour dire le chemin qu'il a fait, où il a vraiment travaillé sur sa déconstruction, sur sa propre tolérance. Et il s'est rendu compte, il me disait qu'il se sentait beaucoup plus intolérant que moi dans la première rencontre. Ça a débloqué beaucoup de choses. Donc, il faut vraiment accompagner l'humain avant tout. Et ensuite, on travaille sur tout ce qui est professionnel. Donc ça, c'est exactement la même chose quasiment pour toutes et tous. Il y a juste une éleveuse qui est partie à la retraite maintenant, une ancienne éleveuse, Myriam, que j'ai accompagnée pendant quelques années. Alors elle, c'était vraiment... J'ai jamais vu ça de ma vie. Hein. Elle était seule femme déjà dans sa ferme. Elle travaillait avec son fils et son mari à ce moment-là. Et elle avait placardé partout à l'élevage les autocollants antispécistes. Donc dans toute sa ferme, c'était marqué antispéciste, respecter les animaux, etc. Et elle se battait tous les jours avec son fils et son mari à ce moment-là. Et elle a vraiment eu beaucoup, beaucoup de courage, mais j'en connais pas beaucoup qui ont ce cran-là, quoi. Donc voilà. Donc c'est changer de vision du monde, savoir s'affirmer, et il y en a qui n'ont pas forcément j'ai pas envie de dire force, mais cette capacité, ou je sais pas, à s'affirmer complètement vis-à-vis des autres. Donc essentiellement, les éleveurs, comme je disais, ils le font en sous-marin, ils veulent être anonymisés, d'ailleurs même dans les rapports qu'on rend des fois, et je respecte, hein, évidemment. Donc il y en a pas beaucoup comme Stéphane, qui lui, il est hyper content à chaque fois qu'un journaliste l'appelle pour parler de ça, quoi. Donc voilà. Mais on peut dépasser tout ça. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est important à dire. Je le dis à tous les éleveurs qui me contactent, c'est qu'il y a autant de solutions que d'individus. Comme je le disais, il y a autant de manières de militer que d'individus. C'est la même chose avec les éleveurs. C'est pas parce qu'ils ont appris d'une certaine façon qu'ils doivent continuer à fonctionner de cette manière-là toute leur vie. Et la plupart du temps, j'essaye de les reconnecter autant que possible à leur rêve d'enfant, quoi. Et Stéphane, c'était son rêve d'enfant. La boulangerie, c'était son premier métier. Et il a dû s'en éloigner. Voilà, la vie a fait que. Puis aujourd'hui, il retrouve sa joie d'enfant dans ce qu'il fait. Et c'est vraiment ça, la clé, en fait. Donc, dans tout ça, on a beaucoup, beaucoup de projets avec quelques éleveurs avec lesquels on collabore maintenant, anciens éleveurs, je dois dire. On a envie, parce que le mouvement continue à prendre de l'ampleur, on a envie de professionnaliser un peu cet accompagnement, puisque là, jusqu'à maintenant, en fait, je gère le sanctuaire, puis je me déplace régulièrement dans les fermes où on me demande d'y aller. Donc voilà, il y a des bénévoles maintenant qui s'occupent du lieu. Mais j'ai envie de rendre cette reconversion encore plus accessible. Donc l'idée, c'est de créer, à un moment donné, plus proche des villes, un espèce de centre de formation pour les éleveurs éleveuses et dans lequel on travaillerait en collaboration avec des personnes qui sont spécialisées dans la cuisine végétale, le maraîchage, la permaculture, etc. Parce que moi, j'ai pas ces compétences du tout. Et l'idée, c'est qu'on puisse travailler en complémentarité dans cet accompagnement-là. J'ai mis collaboration avec la France et la Belgique parce que régulièrement, des personnes me demandent, depuis la Belgique et la France, comment faire pour initier d'une certaine façon ce mouvement, mais je pense qu'il est initié d'une certaine façon, peut-être qu'il est juste encore silencieux, mais faudrait voir. En tout cas, moi, je reste ouverte à toutes les discussions possibles. Il va y avoir, oui, des relais médiatiques plus vastes cette année aussi qui vont parler spécifiquement de la reconversion des éleveurs, donc tout ça, c'est aussi bon à prendre pour faire parler du sujet. Et puis là, c'est quelque chose que j'ai envie de faire, par exemple, et je pense qu'en France et en Belgique, c'est le même principe. On a un service de l'agriculture, un service des affaires vétérinaires, de la sécurité alimentaire, enfin voilà. Et en fait, là, ce que j'ai envie, c'est d'aller toquer à leur porte, ça va être mon projet de ces prochaines semaines, et de dire, bah, en fait, quand vous aurez des situations où vous devez placer sous séquestre un éleveur, et puis qu'il n'a pas de solution, et puis la plupart du temps, il se suicide quand même, hein, dans ce genre de situation, quand on leur retire les animaux, et puis qu'ils sont complètement dépassés par les événements, etc. Il faut pas oublier, hein, je pense que L214 est bien placé pour le savoir, il y a une détresse humaine derrière les séquestres des animaux qui est incommensurable. Et quand on retrouve des animaux dans des situations vraiment juste pitoyables, c'est parce qu'il y a un humain qui souffre aussi derrière. Alors c'est clair qu'on pourrait juste se dire c'est un bourreau, voilà. Mais en fait, si on veut vraiment changer les choses à terme, il va falloir leur tendre une main, quoi. Et donc, c'est ce que j'ai envie de faire, c'est j'ai envie de collaborer avec ces institutions pour dire, bah, quand vous avez des situations de dénonciation ou de séquestre, bah, on peut intervenir pour autant agir sur les animaux que l'éleveur qu'il y a derrière. Parce qu'en général, il est juste laissé sans solution. Voilà. Et donc, pour tout ça, oui, il va y avoir potentiellement un agrandissement du sanctuaire existant, voire la création d'un deuxième lieu où on pourrait créer ça plus proche des villes. Et puis avec un système de bénévolat, de chambres d'hôtes qui nous permettra aussi de faire rentrer de l'argent dans l'association. Parce que moi, je suis pas très à l'aise avec le système où on compte que sur des dons. J'aime bien aussi que les gens puissent s'imprégner de ce qui se passe. Et donc ça, ce sera vraiment l'idée. Là où je suis maintenant, c'est un peu limité en termes d'espace d'accueil. Donc j'aurais assez envie de créer un lieu presque exprès pour ça, où les gens viendraient vraiment faire l'expérience et du coup faire des formations sur quelques jours, quelques semaines. Autant les éleveurs en reconversion que les personnes qui veulent créer des sanctuaires. Voilà pour les projets à venir. Donc, si vous ne nous suivez pas encore, vous pouvez le faire. Je réponds en général assez vite aux mails. S'il y a des questions vraiment spécifiques, on peut toujours me contacter par mail. Instagram et Facebook, c'est quand même plus difficile de suivre parce qu'il y a trop de notifications, mais par mail, en tout cas, volontiers. Donc, si tout d'un coup, cette thématique vous interpelle pour une raison ou pour une autre, vous avez envie de développer ça quelque part, n'importe où, bah, faut pas hésiter. Je me déplace autant que je peux. Et je crois que c'est tout pour moi. Merci. Voilà, merci. Donc, si vous avez des questions, là, maintenant, on peut prendre un temps, évidemment. Et on peut aussi continuer après, en bas.
Bonjour.
Ok. J'ai une très courte question. Merci pour la présentation.
Merci.
C'est quoi le modèle économique du sanctuaire? Je ne comprends pas en fait. C'est quoi les rentrées ou enfin, comment ça se passe à ce niveau-là?
C'est des donations. À 63%, c'est des donations. En tout cas, pour 2022, c'était ça. Il y a quelques entreprises, des fois, qui nous reversent un bénéfice. Je pense à New Roots, une entreprise de fromages végétaux qui nous reverse 1% des ventes depuis le début. Mais sinon, c'est des dons. Et après, c'est les ateliers de formation, par exemple, que je donne. Ça, ils sont payants. Et ça contribue bah, directement. Voilà. Et essentiellement, c'est ça. On a très, très peu de goodies, merchandising, tout ça, parce que je déteste gérer ça. Donc, je ne mets pas beaucoup d'énergie là-dedans. Mais peut-être qu'un jour, ça prendra plus d'ampleur. Mais c'est ça, surtout. Ouais.
Et juste parce que je suis taquin, il va à gauche maintenant, Stéphane ?
Ouais, je pense, ouais. Mais il a dit un truc intéressant, c'est qu'il dit il ne faut jamais voter pour un parti de toute façon. Il faut voter pour une loi, en particulier si ça nous touche, parce qu'il se rend bien compte que gauche et droite, des fois, il y a aussi des choses qui sont problématiques. Voilà, c'est ce qu'il dit. Merci.
Comment appliquer cette variable, cette reconversion, plus à venir des éleveurs de plus grande taille ou disons, de femme cuisine, dans ce sens-là, où je pense que c'est plus difficile de toucher l'humain.
Ouais.
Et du coup, est-ce que tu as déjà travaillé avec ces clientèles ou ton expérience?
Alors ça, c'est surtout en Suisse allemande. C'est surtout Hofnar qui a accompagné des très, très grosses fermes ces dernières années. Par exemple, la dernière en date, c'était un hangar de poules pondeuses, donc avec 2500, sauf erreur, poules. Ça paraît petit, je crois, hein, pour la France et la Belgique, mais voilà, pour la Suisse, c'était 2500 poules pondeuses. Et Hofnar a réussi à faire en sorte, on a relayé un peu de partout, à replacer les 2500 poules au travers de la Suisse. Et les éleveurs se sont reconvertis. Maintenant, ils font pension pour chevaux, ils font d'autres choses. Mais là, en fait, ça a aussi été un processus personnel, avant tout. C'est vraiment eux, tout d'un coup, ils se sont dit, mais qu'est-ce qu'on est en train de faire, quoi? Est-ce qu'on veut vraiment contribuer à ce genre de système? Il y a un éleveur qui m'a contacté l'année passée, qui a quand même une ferme relativement grande, mais de nouveau, par rapport aux proportions, là, il a à peu près 400-500 animaux sur sa ferme. Eh ben, c'est beaucoup plus difficile. Le processus de reconversion, mais ça, c'est de nouveau, c'est humainement, c'est plus difficile parce qu'il a construit et il s'est endetté à tel point autour de cette ferme qu'il a l'impression d'être englué dans son système. Alors, j'ai beau essayer de lui tendre des perches à chaque fois qu'il m'en demande, je vois que assez régulièrement, par peur, il va se dire non, j'arrête tout, je continue parce que c'est trop de changements. Donc, c'est pour ça que je dis accompagner l'humain, c'est en fait la première étape là-dedans. Parce que même si on trouve des solutions économiques, si eux ne sont pas prêts et qu'ils n'ont pas vraiment fondamentalement eu ce déclic, ils vont revenir en arrière. Et on doit construire les solutions avec. Si on vient avec des solutions toutes faites et qu'on met en avant voilà, aussi les avantages économiques, aussi ils peuvent revenir en arrière. Donc autant Sarah de Hofnar que moi, on insiste quand les éleveurs nous contactent en disant qu'on les accompagne parce qu'ils ont eu ce premier déclic éthique avant. Sinon, on sait que ça va être une perte de temps, en fait, la plupart, malheureusement la plupart du temps. Mais ça existe aussi, ça existe évidemment. Et ça arrive aussi. Par exemple, Sarah, elle a eu un cas, c'était l'année passée aussi, je crois, un éleveur porcin, élevage intensif de cochons. Et en fait, c'était tellement intensif que lui, il ne mettait plus jamais les pieds en fait, dans ses porcheries. Il gérait l'administratif, la comptabilité, etc. Puis il avait des employés. Puis en fait, un jour, le même jour, deux de ses employés étaient malades. Il était obligé d'aller dans la porcherie. Et ça, c'est toujours assez bien fait, ce genre de situation. Il est entré dans la porcherie. Puis c'est comme si tout d'un coup, il a réalisé, en fait, ce qu'il avait comme responsabilité sous les mains. Et il est entré dans cette porcherie, il a croisé le regard d'une truie, et il est ressorti, il a vomi, et il a contacté Sarah, je crois, quelques heures plus tard, en disant « En fait, je me rends compte que je suis devenu un monstre, c'est pas ça que je voulais, quoi, à la base. » Donc c'est aussi des situations comme ça, quoi. Ouais, merci.
Bonjour. Bonjour. J'ai une question par rapport à votre ami Stéphane, c'est comme ça que ça s'appelle, si je ne me trompe pas.
Ouais.
Ça me disait qu'en fait, sa mère habitait tout le village, c'est ça?
Une partie, ouais.
Une partie, en fait. Ouais. Et du coup, étant donné qu'il ne produisait plus de viande, je me posais la question, est-ce que ça avait changé quelque chose dans les habitudes alimentaires de ses voisins, ou est-ce que ça n'avait rien changé du tout?
Alors, directement, ouais. Ouais. Alors, il a eu des voisins très réfractaires. Ah, voilà. Coupure de courant. C'est pas grave. Je vais parler fort. Il a eu des voisins très réfractaires, hein, ça c'est clair. Mais en fait, essentiellement, ce qu'il a fait, Stéphane, il a vraiment très très bien amené le sujet sur la table pour dire les choses comme ça. Quand il s'est lancé dans sa boulangerie végétale, il a été faire goûter tous ses produits à tout le monde et il a entamé le dialogue. Et avec les personnes avec lesquelles c'était pas possible de dialoguer, il a jamais forcé. Il a dit ok, pas de souci. Moi, je te montre juste ce que je fais maintenant, mais c'est ok. Et en fait, non seulement le village, mais aussi l'école du village commande ses produits pour les enfants maintenant, et il est appelé à plein d'événements autour, d'autres institutions, même des grosses boîtes parfois qui le contactent pour dire « Ah bah venez faire le... vous amenez le petit-déj pour la boîte, quoi, typiquement. » Mais ça, c'est une force chez lui, il faut dire, parce qu'il a ce contact relationnel très facile. Donc en fait, il a vraiment été au contact, à dialoguer avec les gens, quoi. Ouais. Donc dans le village, ça a fait un raz-de-marée, vraiment. Et il y en a hein, des éleveurs encore sur place, mais il a réussi à quand même maintenir une forme de lien. Ouais. Donc il y a un dialogue qui s'installe, quand même.
Mm-hmm. Merci beaucoup.
Merci, ouais, je lui dirai. Ouais, on parle fort, c'est pas grave.
En fait, voilà, je crois que c'est par rapport à... On était en Suisse pendant deux mois, ces derniers temps, et on était présent pendant la votation de la loi. En fait, il y a une loi sur...
Contre l'élevage intensif, ouais.
C'est pour revenir sur le fait qu'on est expliqué d'accompagner les éleveurs. Et on a eu l'impression, là, on avait rencontré, du coup... un peu les deux côtés, et on a rencontré des éleveurs qui avaient l'impression en Suisse du coup de nouveau pas être aidés par l'État, et que c'était un peu la COP ou des grandes entreprises qui allaient de nouveau pouvoir eux s'adapter, et eux, ben voilà, encore une fois, on est sur comment dire, sur les éleveurs. Mm-hmm. Et du coup, on se demandait comment, parce qu'ensuite, on fonctionne différemment avec les référendums, donc on peut voter les lois, malheureusement, elle n'est pas passée. Mais comment arriver, parce que là, on voit encore une fois, à petite échelle, avec une personne, comment ça peut se passer. Mm-hmm. Comment on pourra amener, parce que nous, par des votations, par la médiation, comment arriver à apporter ça en Belgique ou en France, parce que nous, on n'a pas du tout le même système politique. Et donc voilà, nous, on a été un peu perturbés. Et à la fois, on était dans une famille, on voyait des parents qui étaient plutôt pas sensibilisés, le jeune qui voyait un peu comment ça se passait avec les animaux. Et la question est peut-être un peu compliquée.
En fait, je crois qu'il n'y a pas de solution miracle. Hein. Comme je le disais au tout début de la conférence, on doit agir sur tous les fronts. Et ce n'est pas parce que l'initiative contre l'élevage intensif n'a pas passé en Suisse l'année passée qu'on ne va pas continuer à accompagner les éleveurs, à créer des sanctuaires, etc. On ne peut pas compter que sur le pôle politique. Et je pense qu'en France, il y a eu pas mal d'exemples de ce type où on a à cœur tout d'un coup et on croit dans un changement politique et au final, ça ne se fait pas. Donc, on doit continuer à agir. Oh là là. On doit continuer à agir sur d'autres fronts. Et je pourrais pas dire quelle est la solution miracle, tu vois, pour recalquer le modèle, mais par contre, ce que je peux te dire maintenant d'expérience, c'est que quand tu vas au contact de l'humain, là, il y a des choses qui changent et il y a des miracles qui se produisent, ça c'est sûr. Et c'est pour ça que d'autres associations vont continuer à œuvrer sur le plan politique, d'autres sur la transition alimentaire des consommateurs consommatrices, mais il y a pas un modèle à le recalquer tel quel, il faut l'inventer. Moi, je crois vraiment.
Combien de voix chez vous pour demander à faire passer une loi comme ça, en fait ?
Je crois que c'est 100 000. Okay. 100 000 personnes. Ouais, pour un référendum.
Même pas s'imaginer que ça puisse arriver.
Ouais, j'imagine. Bah, tu vois, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'en Suisse, pour que cette initiative ait pu être votée l'année passée, même si elle n'a pas abouti, ça veut quand même dire quelque chose sur le changement de société. Parce que, et pour ça, il a fallu militer de plein de manières différentes pour créer le débat public et pour que les gens se rendent compte que, ah ouais, tiens, l'élevage intensif, ça existe aussi quand même en Suisse. Et c'est pour ça que je te parlais de la complémentarité des luttes et des méthodes, parce qu'en fait, si on n'avait pas forcé le débat, on n'aurait jamais pu voter cette initiative l'année passée. Les politiciens ne vont pas dire ça. Ils vont dire non, c'est sorti de notre propre initiative. Mais ce n'est pas le cas. Donc ouais, je ne sais pas si ça répond vraiment.
Merci beaucoup pour votre exposé. Vous le donner comme ça tout le monde entend. S'il vous plaît.
Merci
beaucoup pour votre exposé. Est-ce que vous pouvez nous donner d'autres exemples de reconversion, c'est-à-dire les 130, qu'est-ce qu'ils sont devenus? Ils sont toujours dans l'agriculture au sens large. Ils ne sont pas tous devenus comme Stéphane Boulanger.
Non.
La deuxième chose, quand quelqu'un vient vous voir, comme vous disiez, avec des investissements, des dettes, etc., l'accompagnement, concrètement, ça veut dire quoi?
Ouais.
Vous faites un business plan, à qui vous demandez, comment vous faites?
Merci. Alors, il y a autant de types de reconversion que d'éleveurs. Il y a des éleveurs qui veulent garder une partie des animaux encore et transformer leur endroit en sanctuaire tout en produisant autre chose. Il y en a qui reprennent un job à l'extérieur, qui reprennent un job d'enseignant, ou voilà, je peux donner des exemples comme ça. Ou alors qui fonctionnent vraiment avec un fonctionnement de parrainage des animaux qui couvrent les frais. Il y a autant de cas de figure qu'imaginables. Il y a aussi des éleveurs qui veulent plus rien avoir à faire avec l'agriculture, qui remettent la ferme et qui partent. Ça, il y en a aussi quelques-uns. Et Stéphane, il a fait partie de ceux-là. Il voulait plus du tout d'animaux à la maison parce qu'il voulait vraiment sortir de ce système et puis fonctionner différemment. Et après, par rapport au business plan, pareil, en fait. Alors, on a deux manières de fonctionner très différentes avec Sarah. Sarah, elle a vraiment maintenant aussi, en effet, monté un business plan, puis elle va avec un autre collègue et puis elle monte le projet avec l'éleveur, évidemment, avec une base financière. Moi, je fonctionne pas exactement comme ça parce que mais c'est vraiment une question d'affinité. Hein. Moi, je me sens pas à l'aise avec un business plan comme ça. Je préfère construire le truc avec l'éleveur de A à Z, vraiment, et de se dire, ok, là, si tu as besoin, par exemple, Stéphane, il avait besoin de créer son laboratoire de boulangerie, on a fait en sorte de trouver les moyens pour qu'il puisse racheter les machines. Et typiquement, j'avais fait une journée d'anniversaire au sanctuaire pour les 3 ans du sanctuaire, et les recettes de la journée, qui plutôt que de revenir à coexister ce qui était prévu à la base, je les ai données à Stéphane et Valérie pour qu'ils achètent leurs machines. Et moi, je suis plus à l'aise dans ce genre de solution, de dire, s'il y a besoin de 40 000 francs pour acheter une machine, un nouveau tracteur ou je sais pas trop quoi, je vais aller toquer aux portes pour aider l'éleveur à faire ça. Et aussi lui proposer à lui, Stéphane, il a aussi beaucoup fait tout seul dans son coin, beaucoup de choses. Donc voilà, après c'est à adapter d'une situation à une autre. Et je pense que le business plan, il peut vraiment être important dans certaines situations, typiquement les élevages intensifs. Et puis avec les petits éleveurs, peut-être que ça vaut mieux de mettre de l'énergie dans la rencontre humaine et ce qu'on peut construire à partir de là. Mais tout est en construction en permanence. Ça, c'est important de le dire. Comme je le dis, j'ai pas la prétention d'avoir la vérité unique et terminée sur le sujet. Ouais. d'autres choses. Sinon, on se voit en bas.
Bonjour.
Bonjour.
J'ai vraiment apprécié votre présentation.
Merci.
Moi, je connaissais un petit peu le sujet via un film américain, Peaceable Kingdom.
Ok, ouais. Ouais, je l'ai vu, ouais, je crois. Il y a longtemps, mais je...
Et alors, moi, je suis enseignant et j'essaie de sensibiliser mes élèves. Et j'aurais bien voulu avoir un film, un documentaire comme ça, mais
francophone. En francophone, ouais.
Parce que forcément, les États-Unis, c'est un petit peu déconnecté de la réalité. Hein. Est-ce que vous comptez en faire un, une fois
Alors, appel au directeur de projet de ce genre, c'est pas mon domaine, mais oui, j'aimerais beaucoup. J'aimerais beaucoup. Alors, il y a des médias aussi francophones qui vont parler de ce qu'on fait bientôt, mais c'est clair, c'est clair. J'aimerais beaucoup qu'on puisse faire un documentaire francophone de longue durée, enfin format long, qui parle de ça, parce qu'on a besoin de les faire parler ces gens. On a besoin de faire parler les gens comme Stéphane, Myriam, etc., pour qu'ils puissent eux dire de leurs propres mots comment ça a été pour eux de changer, quoi. Alors, c'est clair. Donc, dans vos réseaux, hein, si quelqu'un une fois a envie de faire ça, il faut le faire. Ouais. Merci. Encore une question au fond, je crois.
Bonjour. Alors, je ne sais pas si ma question sera totalement pertinente avec le sujet, parce que je suis venu parler donc de d'une forme de sensibilisation à l'école. Moi, je suis enseignant, j'ai enseigné en secondaire, maintenant j'enseigne en haute école. Et il y a quelques années, donc durant les premières années où j'étais vegan et où j'étais directement activiste, et j'ai eu des problèmes à l'école parce que j'étais un peu trop extrémiste et violent dans mes paroles, etc. Et donc, ça m'a causé beaucoup de problèmes dans mes professionnels. Et donc, par la suite, je me suis juré de ne jamais en parler, que ce soit aux étudiants ou que ce soit aux collègues. J'ai des directions qui m'ont dit que je faisais du militantisme, etc., et ce n'est pas autorisé par rapport à la neutralité de l'enseignement, qui est censé toucher plutôt tout ce qui est politique et religieux. Est-ce qu'il y a des choses que je peux faire en tant qu'enseignant pour quand même parler du véganisme sans risquer d'avoir des problèmes par rapport à la position de neutralité de l'enseignement?
Alors, je ne sais pas si je vais pouvoir répondre à ta question comme ça directement, mais ma stratégie, c'est de plus utiliser les étiquettes. Donc, tu vois, par exemple, quand je vais présenter le sujet, d'ailleurs là, j'ai pas parlé de véganisme ni d'antispécisme, juste dans le titre. Pourquoi? Parce que c'est deux étiquettes, malheureusement, qui sont devenues très clivantes. Et dès qu'on parle, on dit vegan ou antispéciste, quelque part, ça braque les gens. Et donc, je préfère parler du sujet, tu vois, de la réalité. Et d'ailleurs, les personnes qui viennent visiter le sanctuaire, quand je parle du parcours des animaux, je dis juste dans les faits ce qu'ils ont vécu. Après, les gens, ils peuvent mettre l'étiquette qu'ils veulent, quoi. Évidemment, ce sera végétal, ce qu'on va proposer à manger. Mais de pas mettre l'étiquette, ça fait venir beaucoup de gens qui sont pas forcément déjà convaincus. Parce que ça donne une plus grande ouverture. Donc, je sais pas, tu vois. Après, dans la manière d'amener le sujet, peut-être que tu vas pas parler. J'en sais rien. Voilà, je pense qu'il y aura d'autres personnes qui auront des techniques. Ça, c'était juste ma manière de faire. Et je trouve que ça braque beaucoup. En tout cas, les éleveurs, ça fait qu'ils osent beaucoup plus s'approcher. Voilà. Ouais. Mais Brigitte voulait dire quelque chose.
Non, c'était simplement pour répondre. Moi aussi, j'ai été enseignante et je suis professeure d'électricité. Il y a beaucoup de... Enfin, le courant passe. Il y a plein de choses qu'on peut faire passer par là. Et surtout, côté L214, on a développé L214 éducation. Il y a du matériel pédagogique à disposition.
Ah bah voilà.
Des niveaux, et ça va jusqu'aux écoles supérieures, où en philosophie et tout ça, on peut aborder le sujet sans être honteux, et quand même amener de la réflexion, des idées, et avec L214 éducation, on n'est absolument pas prescriptif, hein, c'est juste description, et en fonction de l'âge des enfants, ça va être juste très très différent. Voilà, donc regardez de ce côté-là, il y a des choses que vous pouvez intégrer dans votre... qu'on peut faire en anglais, tout un tas de sujets qu'on peut aborder.
Voilà, on disait la complémentarité des méthodes. Illustré en 5 minutes, j'adore. Trop bien. Bon, bah, merci à vous pour vos questions, votre présence. Et puis, moi, je reste là jusqu'à la fin de la journée, donc on peut se voir en bas si vous voulez. Merci à vous pour tout. Merci.
Dédicace, petite table ronde avec des chaises rouges en plein milieu du grand hall. Donc, Virginia, on va vous y retrouver.